Bonjour à tous. Ce matin, nous continuons dans les psaumes. Vous allez voir que, donc évidemment, on ne s'est pas synchronisé avec Luc, mais je vais lire des versets qu'il a. Alors, c'est pas les mêmes versets, mais qui disent la même chose. Donc, je continue avec les psaumes, donc au psaume 5. Je vais le lire dans la traduction du Louis II. D'accord, c'est d'habitude j'utilise la Semeur, mais là j'ai trouvé que cette version un peu plus ancienne avec un langage je sais pas comment il faut dire, un peu plus châtié en fait, me parlait davantage. Donc je lis psaume 5 au chef de chœur avec des flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, Éternel. Comprends mon gémissement. Sois attentif à mon cri d'appel, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me présente à toi et je guette. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal ne séjourne pas auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu as de la haine pour tous ceux qui commettent l'injustice. Tu fais périr ceux qui profèrent le mensonge. L'Éternel a en horreur les hommes de sang et de ruse. Mais moi, par ta grande bienveillance, je vais à ta maison. Dans la crainte qui t'est due, je me prosterne devant ton saint temple. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes détracteurs. Aplanis ta voix devant moi. Car il n'y a rien de sûr dans leurs propos. Leur être intérieur n'est que ruine. Leur gosier est un sépulcre ouvert et leur langue ils la rendent flatteuse. Traite-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute. Rejette-les à cause de leurs crimes sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se réfugient en toi se réjouiront. Ils exulteront à toujours, et tu les protégeras. Ils exulteront en toi ceux qui aiment ton nom. Car toi, Éternel, tu bénis le juste. Comme un bouclier, tu l'environnes de faveur. Ce psaume présente Dieu d'une façon qui dans notre culture nous dérange. Notre culture présente Dieu comme un Dieu d'amour. Alors là, quand je dis notre culture, je parle de la culture occidentale au sens large. Bon, la culture française a tendance à évacuer complètement Dieu, mais malgré tout, l'idée de Dieu perdure dans notre société. Et quand on demande aux gens quelle est la caractéristique première de Dieu, la première réponse qui vient généralement, c'est Dieu est amour. Dieu est amour. C'est ça, c'est le qualificatif qui est reconnu et probablement mis en avant par tout le monde. La justice de Dieu ou la colère de Dieu sont des notions qui étaient très présente dans les siècles passés, au point que c'était le contraire, que c'était cet amour de Dieu qui avait du mal à être perçu. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui a créé ce basculement. Mon sentiment, c'est que on vit dans une société où nous sommes protégés de ce qui a fait le quotidien des générations qui nous ont précédés. Nous sommes protégés en grande partie de la souffrance, nous sommes protégés de la violence, nous sommes protégés de la mort. Nos sociétés ont évacué une grande partie de ces réalités-là. Alors bien sûr, elles existent toujours, elles sont cachées. Mais si on pense à la violence ou à la souffrance par rapport à ce qu'ont connu nos ancêtres, nous en sommes très loin. La conséquence, si on pense à la conséquence première de la chute, vous connaissez les versets qui après la chute d'Adam et de Ève, les conséquences, ben c'est tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, à la sueur de mon front. Alors bon, moi la dernière fois que j'ai sué au travail, c'est parce que je suis allé courir entre midi et deux. Pour d'autres, bien sûr, bon, le travail manuel a sa place, mais par rapport à ce qu'ont connu nos ancêtres, la quantité de travail physique que nous avons à fournir est infiniment moins grande. Tu enfanteras dans la douleur. Là aussi, c'est une réalité qui disparaît de plus en plus de nos sociétés. Et puis bien sûr, tu mourras. Et là aussi, la mort, eh bien, a été d'abord repoussée vers un âge bien plus avancé que ce qu'ont pu vivre ceux qui nous ont précédés. Nous vivons vieux pour la plupart d'entre nous, et bien sûr, nous ne côtoyons quasiment jamais la mort de près. Alors cette conséquence de la chute, je pense que nos sociétés l'ont progressivement éliminée, et cette vision d'un Dieu juste et d'un Dieu en colère a été effacée de notre conscience collective. Et en préparant cette semaine, en fait, alors bon, donc Luc regardait, enfin voilà, lui écoutait une pièce de Sophocle. Moi, c'était une série américaine. Chacun se cultive avec ce qu'il peut. Et dans cette série, on présentait, il y avait un personnage homosexuel, en fait, qui était confronté à l'attitude des églises. Alors bon, évidemment, c'est américain. Et donc, il se retrouvait confronté à deux types d'églises. Donc, une famille d'églises où, en fait, les homosexuels étaient amenés dans des espèces de séminaires pour leur changer, qui changent d'orientation sexuelle. Donc, avec une pression très forte de l'église pour que cette partie de leur personnalité soit transformée et changée. Et donc volontairement ou moins volontairement, ils étaient conditionnés et pressés dans cette direction-là. Et puis donc d'autres églises, en fait, réagissaient en disant qu'au contraire Dieu aimait les homosexuels et aimait l'homosexualité et que tout le monde était le bienvenu. Et donc ces deux façons de présenter Dieu se confrontaient dans cette histoire-là. Et bien sûr, donc en lisant ce texte-là, je réfléchissais à ces deux façons de présenter Dieu, et évidemment, je les trouvais, j'ai envie de dire fausses, enfin des deux côtés, je me retrouvais pas. Et donc, je pense que c'est pour ça que c'est important de pouvoir revenir à la parole de Dieu. Et nous confronter à ce qui nous dérange, contre le flot. Notre société nous pousse dans une direction. La parole nous aide à revenir à une vision plus juste de Dieu. Alors on va prendre un petit peu ce que David met en avant dans ce psaume. Peut-être la première chose qui m'a marqué, c'est la façon dont David s'approche de Dieu. Quand on demande aux personnes dans les églises en général, peut-être même dans la société, entre comment est-ce qu'ils voient Dieu, est-ce qu'ils voient Dieu comme un ami ou comme un roi, la plupart des gens répondent comme un ami. Roi vient très loin. Comme un ami. Et il y a une part de réalité là-dedans, mais probablement la perception commune est fausse. Jésus nous dit: vous êtes mes amis, vous êtes mes amis. Est-ce que vous vous rappelez de la suite du verset? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis, d'accord? Si vous m'obéissez. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Ça marche pas dans l'autre sens, d'accord? La parole dit pas Jésus est votre ami ou Dieu est votre ami, parce que Dieu est pas mon ami s'il fait ce que je veux. Ça marche pas dans ce sens-là. David s'approche de Dieu comme de son roi. Il se soumet volontairement à son autorité. Et la fois précédente, dans le psaume 4, David dit que il crie à Dieu et ensuite il se tait pour écouter ce que Dieu a à lui dire. Dans ce dans ce psaume, la même idée est reprise, je trouve. Il dit, je me présente devant toi, et sa traduction dit, je guette. D'autres traductions disent, j'attends. David se présente devant Dieu, devant son roi, et il attend. Il attend pas passivement. Cette traduction, je guette, je trouve, est intéressante parce que David n'a pas une attitude passive devant Dieu. Il n'est pas en train d'attendre que Dieu veuille bien se révéler en pensant à autre chose. David guette la révélation de Dieu. Cherche sa volonté, cherche sa présence et sa parole. Et il nous dit, je guette ce que Dieu a à me dire, car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal ne séjourne pas auprès de toi, les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu as de la haine pour ceux qui commettent l'injustice. Tu as de la haine pour ceux qui commettent l'injustice. On a l'habitude, donc, et c'est un proverbe, c'est même un proverbe, quand j'ai cherché cette référence-là, on la trouve comme un proverbe de la langue française. On peut haïr le péché et aimer le pécheur. Dieu aime le pécheur et il hait le péché. Et généralement, c'est vrai qu'on fait cette distinction mentale entre le comportement et la personne. Et on se dit il faut aimer la personne et en même temps pouvoir condamner son comportement. Il y a une part de vérité là-dedans. Malgré tout, ce passage nous montre que la personne de Dieu est plus complexe que ça. On peut pas se contenter de cette façon agréable de voir les choses. Ce texte nous dit: Dieu a de la haine pour celui qui commet l'injustice. Dieu n'accepte pas en sa présence le méchant. Dieu rejette le mal, ne trouve aucun plaisir dans celui qui pratique la méchanceté. Et c'est violent comme parole. Penser que Dieu a de la haine pour des humains. Nos églises parlent de l'amour de Dieu tout le temps. C'est une réalité qu'on a envie de partager parce qu'on la vit pour nous. Et c'est quelque chose qu'on a envie de partager avec le monde. En cherchant un peu, donc, en réfléchissant à ce texte et en cherchant un petit peu ce qui avait pu être dit là-dessus, je suis tombé sur un petit livre d'un théologien américain qui s'appelle Don Carson. Donc le titre de son petit livre, qu'on peut trouver d'ailleurs gratuitement sur internet, alors en anglais, même s'il y a des sites qui reprennent une partie de ce qu'il a expliqué en français. Donc le titre de son livre, c'est la difficile doctrine de l'amour de Dieu, parce que effectivement l'amour de Dieu est plus compliqué que ce que on peut appréhender intuitivement ou avec ce qu'on peut partager habituellement dans nos églises. Et on va après avoir continué un peu dans ce psaume, on va voir après justement quels sont les différents composants de cet amour de Dieu. Mais donc ici on voit que en Dieu que en Dieu existe aussi la haine pour le pécheur. Alors, peut-être pour un pécheur d'une nature un peu particulière. Parce qu'en lisant ce texte-là, je me rends compte que c'est David qui a écrit ça. C'est David. Et on connaît bien l'histoire de David. Et quand il est parlé de que l'Éternel a en horreur les hommes de sang et de ruse, notre traduction dit les assassins et les menteurs. Et on se dit, mais David a été assassin. David, il a été menteur. On connaît son histoire avec Bathsheba, on sait ce qu'il a fait. Il a été assassin et menteur. Comment David alors peut écrire que Dieu a en horreur ceux qui commettent de telles choses? Parce que juste après, il écrit « Mais moi, par ta grande bienveillance, par ta grâce, je vais à ta maison et dans la crainte qui t'est due, je me prosterne devant toi. » David a été de ceux qui ont commis ces choses que Dieu a en horreur. Et pourtant, David répète l'amour que Dieu a manifesté pour lui. Donc ça nous montre une réalité qui va avec cette haine de Dieu pour le pécheur, c'est que la grâce de Dieu laisse toujours le chemin ouvert pour la repentance et le pardon. Ce chemin-là n'est jamais fermé. Ensuite, on voit dans la façon dont ceux dont Dieu a en horreur, quelle est leur attitude première, et ce texte nous le met particulièrement en avant quand il est parlé de péchés répétés et d'une attitude qui est celle de la rébellion. Leur être intérieur n'est que ruine, leur gosier est un sépulcre ouvert, leur langue ils la rendent flatteuse. Traite-les comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute, rejette-les à cause de leurs crimes sans nombre, car ils se révoltent contre toi. La révolte contre Dieu, cette attitude qui fait que un homme rejette le pardon, rejette même la présence de Dieu. On peut voir la réponse de Dieu à cette attitude comme la simple conséquence du choix qui est fait de le rejeter. Les insensés, en notre traduction disent les insolents, ne subsistent pas devant toi. Et en effet, comme on l'a rappelé dans nos prières, et c'est d'abord l'humilité de celui qui reconnaît sa faute et qui reconnaît le besoin qu'il a de Dieu. C'est cette attitude-là qui permet à l'homme de s'approcher de Dieu et de bénéficier de son pardon. Et c'est la rébellion qui le sépare complètement de Dieu. Malgré tout, le fait que Dieu ait de la haine, c'est quand même quelque chose qui nous dérange. Parce que, pour nous, la haine fait référence à un sentiment qui nous submerge ou qui nous dépasse. Un des problèmes de notre, j'ai envie de dire que la société, la vision que la société a de Dieu, c'est qu'elle elle a mis en avant essentiellement les sentiments de Dieu. Alors en lisant ce petit livre, j'ai appris quelques mots comme ça de théologie, alors je vais en partager au moins un avec vous, comme ça, vous aussi, vous aurez appris quelque chose. Donc, il est parlé d'anthropopathisme, pour cette idée que Dieu a des sentiments. Donc, on a bien l'habitude du mot anthropomorphisme, hein, donc forme d'homme, anthropopathisme, donc sentiment humain. Et donc, pour lutter contre cette idée que les sentiments de Dieu sont pas les mêmes que les nôtres, on parle donc de projection des sentiments humains sur Dieu, et en disant donc non, Dieu n'a pas les mêmes sentiments que nous. Et il y a tout un courant théologique en fait qui parle de l'impassibilité de Dieu. Donc Dieu est un, donc là on voit Dieu comme un être rationnel, et son amour comme étant un amour altruiste. Et donc que le fait de lui prêter les mêmes sentiments que les nôtres, en fait, bah, c'est un anthropopathisme, c'est une façon de se projeter en Dieu, mais que Dieu est différent de ça, et que donc dans son être intérieur, Dieu est impassible. Ça présente l'avantage d'évacuer ce genre de texte où on se sent pas à l'aise avec ça. Malgré tout, la Bible ne présente pas Dieu de cette façon-là. La Bible présente Dieu avec des sentiments. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que pour nous, l'amour ou la haine, c'est quelque chose qui nous submerge. Et l'idée de se dire que Dieu est submergé par l'amour ou par la haine, ça viole en fait l'idée que Dieu est un être omnipotent, omniscient, tout puissant, et donc penser qu'il puisse être submergé par les sentiments, c'est finalement le rabaisser, le rendre vulnérable, penser qu'il a à ce moment-là besoin des êtres humains. Et la Bible, là aussi, présente un Dieu différent de ça. Et donc, il nous faut arriver à avoir une vision de Dieu où, sa toute-puissance, le fait qu'il soit omniscient, qu'il connaisse le début et la fin, eh bien que cette dimension-là de Dieu est compatible avec l'amour qu'il a pour nous, un amour qui se rapproche d'une autre, des sentiments qui vont avec, même si notre compréhension en est limitée. Eh bien, il faut qu'on arrive à faire cohabiter ces notions-là, et c'est pour ça que la doctrine de la, enfin la compréhension qu'on a de l'amour de Dieu est pas simple. Je vais y revenir un petit peu après, mais je continue sur le psaume qu'on a lu. Dans ce psaume, on voit que donc il y a une rétribution pour les méchants. Les méchants sont David appelle à ce que Dieu les traite comme des coupables, que leur faute retombe sur eux et que Dieu bénisse le juste. Une des visions qu'on a aussi de Dieu, c'est que son amour s'applique à tous et que Dieu aime tous les hommes indifféremment. Et ce texte nous dit, mais Dieu aime ceux qui lui obéissent. Dieu aime ceux qui se réfugient en lui, ceux qui aiment son nom. Ce texte nous dit que Dieu n'aime pas les hommes, tous les hommes, de la même façon. Et ça aussi, nous devons le prendre et regarder ce texte avec sans détourner les yeux et arriver à essayer de saisir ce que Dieu veut nous transmettre en nous disant cela. L'amour de Dieu est aussi conditionnel. On a l'habitude de parler de l'amour inconditionnel de Dieu. Et c'est vrai, il y a aussi une part de réalité dans cet amour inconditionnel, et on va voir juste après quels sont comment cet amour inconditionnel se manifeste. Mais l'amour de Dieu est aussi conditionnel. Dans Jean 15, Jésus nous dit « Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. » Parce qu'on peut être à l'extérieur de l'amour de Dieu. Comme un père va aimer ses enfants en les corrigeant ou en les encourageant, suivant leur attitude, la façon dont Dieu manifeste son amour n'est pas la même, suivant que nous obéissons et que nous marchons avec lui, ou bien que nous lui désobéissons. Dieu n'agit pas de la même façon dans les deux cas, et cet amour, donc la manifestation de cet amour est conditionnelle à notre obéissance. Nous devons avoir une vision équilibrée de l'amour de Dieu. Parce que si nous magnifions une dimension plutôt qu'une autre, nous tombons dans les travers que les églises ont connus à un moment ou à un autre de leur histoire. Un légalisme mortifère, un universalisme qui vide complètement de sa substance le message de l'Évangile. Nous devons arriver à ce que la parole nous interpelle et nous devons arriver à la prendre en compte dans sa complexité et dans sa richesse. Je vais brièvement partager les cinq dimensions ou les cinq façons dont l'amour de Dieu se manifeste. Donc là, je reprends en fait donc ce que j'ai lu dans ce petit livre sur la difficile doctrine de l'amour de Dieu. La première façon dont l'amour est présenté dans la Bible, c'est l'amour trinitaire, l'amour entre le Père et le Fils. Le Père aime le Fils et il l'envoie. Le Fils aime le Père et il lui obéit. Et il va apporter cet amour cet amour au monde, cet amour parfait qui existe au sein même de la personne de Dieu, qui est la source de son identité et de sa façon d'être au monde. Il est relation, et dans cette relation, il est amour. Un amour parfait, donné et reçu. Il aime, il est amour dans sa création. C'est pas forcément le mot amour qui est employé dans ce contexte-là, mais la Genèse nous dit « Dieu vit ce qu'il avait créé, et cela était bon. » Dieu aime sa création. Il donne une gloire particulière aux fleurs des champs, plus grande que celle de Salomon. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Il apporte la vie dans ce monde, et il aime sa création. Puis Dieu aime le monde. Connaissons ce verset-là par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le monde entier. Chaque être humain. Chaque être humain, Dieu a envoyé son Fils pour lui. Il aime le monde de façon universelle. Et chaque homme et chaque femme. Un verset qui reprend bien ça se trouve dans Ézéchiel au chapitre 33 et au verset 11. C'est un verset qui vaut la peine d'être lu, et quand on parle de sentiments, là on vous allez entendre la vous allez entendre la, la cette cet amour qui étreint notre Dieu. Dis-leur, je suis vivant. Oracle du Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Revenez, revenez. Dieu appelle et crie parce qu'il aime, il aime chaque homme, et il ne veut pas que aucun périsse. Cet amour de Dieu pour chaque être humain, c'est celui dont nous parlons souvent, et bien sûr il faut c'est quelque chose qui est complètement que nous avons complètement intégré, qui fait partie de notre relation à Dieu. Dieu aime les élus, Dieu aime ceux qu'il a choisis, parce que Dieu est tout puissant, Dieu est souverain, et c'est lui qui nous choisit. Alors on va pas s'approfondir sur la doctrine de l'élection, parce que c'est quelque chose qui est dont on sait que c'est compliqué. À un moment donné, c'est toujours pareil, on est obligé de reconnaître avec humilité qu'il y a des dimensions à la souveraineté de Dieu et à la responsabilité de l'homme qui nous dépasse. Mais malgré tout, Dieu choisit. Dans Malachie, il nous a dit que Dieu a aimé Jacob et qu'il a haï Ésaü. Ça nous choque, évidemment. Mais Dieu choisit, et il aime ceux qu'il a choisis, d'une façon particulière. Dieu, alors le Christ, a aimé l'Église. Il a aimé l'Église d'une façon particulière. Il a manifesté son amour aux croyants, aux chrétiens, à ceux qui le suivent, à ses disciples, d'une façon particulière qu'il n'a pas montrée aux autres. Dieu aime ceux qu'il a choisis. Et enfin, l'aspect qu'on a plus vu aujourd'hui, Dieu aime de façon conditionnelle ceux qui lui obéissent. Il manifeste son amour à ceux qui se confient en lui, à ceux qui cherchent sa volonté, à ceux qui prennent plaisir en lui. Il manifeste cet amour d'une façon particulière. Demeurez dans mon amour. Nous sommes encouragés à marcher dans cette voie-là, parce que ce que Dieu veut pour nous, ça dans Thessaloniciens chapitre 4, Dieu veut que nous soyons saints. Dieu veut que nous soyons, une traduction dit, entièrement à lui. Cette sainteté de Dieu qui rejaillit sur nous. Dieu ne prend pas plaisir dans le mal, il n'accepte pas auprès de lui ceux qui se détournent. La sainteté de Dieu est une dimension que, personnellement, moi, j'ai du mal à appréhender. Il me semble qu'il y a des choses qui me dépassent là-dedans, mais Dieu nous veut entièrement à lui. Et il manifeste Il manifeste cette volonté aussi dans le fait de nous bénir quand nous marchons avec lui, et aussi de nous châtier quand nous éloignons de lui. Je vais m'arrêter là en rappelant voilà que notre société nous pousse à présenter un Dieu acceptable. La façon dont ce Dieu est acceptable, ben, ça change en fonction des époques. Notre époque, c'est un Dieu aseptisé, qui aime tout le monde, un papa gâteau, un grand-père gâteau, comme vous voulez, voilà, qui juge pas, qui accepte chacun comme il est. La parole nous montre un Dieu différent. Et nous devons recevoir cette parole parce qu'elle nous montre un Dieu bien plus riche, bien plus profond dans son amour que les proverbes un peu ou les idées reçues un peu superficielles même dans notre milieu évangélique que Dieu aime le voilà que Dieu est le pécheur aime le et le péché aime le pécheur, ce genre de choses qui sont pas complètement fausses, mais en même temps qui contiennent pas la profondeur de la relation de Dieu avec l'homme. Et je veux juste terminer en vous exhortant à revenir toujours à la croix, parce que c'est à la croix que finalement la richesse de l'amour de Dieu se manifeste, parce qu'à la croix nous trouvons la justice de Dieu et nous trouvons son amour. Nous trouvons l'amour et la colère. À la croix, nous trouvons la justice et la grâce. À la croix, nous trouvons la toute-puissance et l'éternité de Dieu qui a préparé le salut depuis le début de la création. Et puis, nous trouvons aussi la souffrance que Dieu a vécue à ce moment-là, à cet endroit-là. À la croix, nous trouvons toute la richesse de qui est Dieu pour nous. Nous devons ressembler au Fils. C'est lui notre modèle dans ce domaine-là. Nous sommes à l'image du Père. Et alors que Dieu nous aide à le présenter, à le partager avec ceux qui sont autour de nous d'une façon qui soit vraie et vivante. Que le Seigneur nous garde.